6h50 sur France Culture.
Les enjeux internationaux.
Avec vous, Thierry Garcin, par exemple.
Pourquoi pas ? C'est une bonne idée.
Bonjour, Thierry.
Merci, en tout cas, Guillaume. On va parler de l'Iran avec notre invité Mathieu Anquet à propos de la visite des différents interlocuteurs, négociateurs européens, les Italiens, la Commission européenne, etc. Et le thème, évidemment, à qui profite le début d'ouverture économique. Mathieu Anquet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes au cabinet de conseil, Compagnie européenne d'intelligence stratégique. Les sanctions venaient de trois sources. Donc, il y avait évidemment les États-Unis, les Nations Unies, l'Union Européenne, elles étaient de divers ordres. Elles ont été en grande partie levées donc au début de cette année après l'accord sur le nucléaire militaire de juillet 2015. On attend une relance, un rattrapage plutôt progressif, paraît-il, puisqu'il y a le contexte économique mondial qui n'est pas favorable, le bas prix du pétrole. Alors, il est évident que l'Iran est sorti de récession en 2014, mais l'Iran accuse des faiblesses internes. Alors, le secteur bancaire, les infrastructures, les équipements industriels, et selon une étude très intéressante de la COFAS, il y a trois priorités pour Téhéran, les transports, et pour évidemment les Européens notamment, les transports, le logement et les travaux publics. Alors, on peut parler quand même d'une ouverture, les Iraniens sont très demandeurs.
Les Iraniens estiment qu'il faudrait entre 30 milliards et 50 milliards d'investissements étrangers par an pour qu'ils atteignent leur objectif de croissance qui est de 8%. Donc, c'est toute cette...
grand bien leur face.
Oui, tout à fait. Et les choses commencent à bouger dans ce sens. La présence des Européens, des entreprises européennes se confirme. Énormément de visites de haut niveau avec des méga-contrats qui ont été annoncés ces derniers mois, notamment avec les grands partenaires historiques commerciaux européens de l'Iran, que sont l'Italie, 17 milliards d'investissements annoncés.
Et vous disiez avant l'émission là, que l'Italie était déjà, avant les sanctions, le premier interlocuteur européen.
Européen. En termes de partenariat économique, c'était le principal partenaire commercial avec l'Allemagne, bien sûr. Et la France était très présente dans le secteur pétrolier, il va sans dire, avec Total. Mais aussi, et c'est peut-être moins évident pour les interlocuteurs, pour les auditeurs, dans le secteur automobile. Aussi bien Peugeot que Renault avaient énormément d'intérêt en Iran. Et ces mois derniers, les partenariats avec les anciens partenaires iraniens de Renault et Peugeot ont été renoués. Avec Saipa pour Renault et avec Iran Khodro pour PSA. Donc la production de véhicules automobiles d'origine française en Iran est en train de reprendre et les Iraniens sont très demandeurs.
Alors j'ai vu que pour la France, on était quand même relativement en arrière par rapport notamment à l'Allemagne. J'ai vu les flux financiers de l'Allemagne par rapport à la France, ou plutôt ceux de la France par rapport à l'Allemagne, à l'égard évidemment de Téhéran. La France n'est que 20, et j'ai calculé 21% des flux financiers, c'est pas grand-chose par rapport à l'Allemagne. On retrouve l'Allemagne un peu partout.
Oui, on retrouve l'Allemagne un petit peu partout, mais l'Allemagne est une...
Elle joue dans la cour des
puissance commerciale éprouvée. Mais les Français ont leur chance en Iran. Enfin, il y a énormément d'opportunités.
Bien que la diplomatie française récemment ait été d'une inflexibilité, on était plus américains que les Américains dans le dossier du nucléaire iranien.
Ah, il fallait peut-être parfois...
C'est un peu tirer une balle dans le pied, non ? Tu ne sais ou pas pour l'avenir ? Parce que la question se pose.
La question se pose après aussi sur quel cheval on mise à long terme au Moyen-Orient. L'Iran est un îlot de stabilité dans cette région sous très très haute tension. Le pari les Français jouaient le rôle des méchants un petit peu dans les négociations sur le nucléaire, les plus jusqu'au boutistes.
Et donc on a quand même des chances commercialement.
On a des chances commercialement. Sinon, le président Rouhani, le président iranien Hassan Rouhani, ne serait pas venu en France en début d'année. Les partenariats commerciaux n'auraient pas pu se renouer aussi facilement. Donc oui, la France a évidemment des chances. Nos entreprises, comme les entreprises de BTP, je pense à Bouygues par exemple.
Télécom peut-être
Les télécoms, l'aéronautique. L'aéronautique civile a
alors vous avez dit qu'il y avait beaucoup de... Je ne sais pas si c'est signé, mais beaucoup d'Airbus, c'est signé.
Voilà, il y a une intention d'achat de 114 Airbus.
114
Oui, parce que les transports aériens iraniens ont désespérément besoin à la fois de nouveaux avions, mais aussi de pièces détachées, train d'atterrissage, moteurs.
Pour les
et ça,
des
sociétés françaises comme Safran ont énormément d'intérêts potentiels en Iran.
Quel jeu jouent les Américains dans cette affaire-là ?
Les Américains jouent peut-être le rôle toujours de sanctionneurs. C'est ce qui peut peut-être freiner les investissements européens en Iran, parce que les banques européennes sont toujours un petit peu réticentes face à la menace de nouvelles sanctions qui viseraient le secteur financier iranien, nouvelles sanctions américaines, comme celles qui ont eu lieu en mars suite à deux tirs de missiles balistiques iraniens. Donc, les banques européennes ayant horreur du risque, elles ont toujours un petit peu de réticence à financer les investissements des entreprises européennes en Iran. C'est tout l'enjeu de la visite de Federica Mogherini en Iran en ce moment. C'est de rassurer aussi les banques européennes, de dire nous faisons, l'Union européenne fait tout pour rassurer les banques européennes, investissez en Iran.
Alors j'ai vu un chiffre dans la presse hier, l'Iran attend 10 fois plus d'investissements directs étrangers qu'en 2014, mais peut-être qu'en 2014 les investissements directs étrangers étaient très faibles, ou est-ce que ça représente vraiment un espoir pour eux considérable, c'est 10 fois plus?
À 10 fois plus, oui.
Ça vous paraît vraisemblable? Comme espoir, c'est les palestiniens légitimes, c'est compréhensible.
Il faut peut-être voir de quelle origine ces investissements étrangers viennent, parce qu'évidemment, lorsque les Européens n'étaient plus en Iran, la place a été laissée libre à d'autres pays. Je pense à l'Inde, à la Chine, mais aussi la Corée du Sud, très active en Iran. Donc, il y a toujours eu des investissements étrangers, mais les Iraniens aiment aussi, souhaitent aussi la qualité européenne. C'est une énorme carte pour nous. Les pièces détachées d'automobiles chinoises qui ont supplanté les pièces d'origine, notamment françaises, lors des sanctions, n'ont pas donné une très très grande satisfaction aux Iraniens. Donc, il y a chez les Iraniens aussi la quête de cette qualité européenne que nous pouvons leur offrir, mais il ne faut pas oublier que les entreprises américaines préparent activement leur retour sur le marché iranien. Nous avons une chance, mais il ne faut pas
Manquer.
Pas trop attendre. Tout à fait.
Et alors les obstacles internes quand même à l'Iran, parce qu'on peut dire, on peut se demander, est-ce que l'Iran a une telle capacité dans les 10 ans à venir à absorber autant et d'investissements et d'échanges avec notamment les Européens?
Tout dépendra de l'évolution politique interne de l'Iran. C'est un État extrêmement complexe au niveau de son fonctionnement.
Je rappelle d'ailleurs, j'en précise, vous avez publié en 2014 chez Argos un ouvrage intitulé « Géopolitique de l'Iran » et le sous-titre « Puissance dangereuse ou pays incompris ».
Voilà, donc le régime iranien est un régime extrêmement complexe, polycéphale. Donc il peut y avoir un président qui va vouloir favoriser ses investissements avec tout son gouvernement, mais de l'autre côté, il peut y avoir le guide de la révolution, qui a la réalité du pouvoir dans certaines prérogatives, qui va jouer un autre jeu d'équilibre avec d'autres pôles plus ultra-conservateurs qui veulent préserver la pureté de la révolution islamique. Donc, évidemment, entre ces différents pôles de décision, il peut y avoir un facteur risque interne. Le grand pari du régime tout de même, dans sa globalité, c'est de favoriser la croissance pour maintenir la paix intérieure.
Et de revenir dans sa région.
De revenir dans la région que l'Iran n'a jamais vraiment quittée.
Mais qui lui est plus familière depuis quand même l'accord notamment avec les États-Unis de juillet dernier, et le rôle qu'on attend de l'Iran par rapport, évidemment, on va dire par rapport à l'Arabie saoudite.
C'est une
façon de
parler.
Merci beaucoup. Donc, Mathieu Anquet, vous êtes à la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, franceculture.fr, pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et demain, Guillaume, ça vous intéresse?
Bien évidemment.
Ah, j'en étais sûr. On va parler de l'Asie du Sud-Est et des grandes tendances économiques. D'ailleurs, justement, dans une région particulièrement complexe, notre invité sera Jean-Raphaël Chaponnière.